Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce rendez-vous hebdomadaire de la presse. Dossier Bundoudia Congo, Denis Kaloumé, ministre d'État à l'Intérieur, et l'honorable Memwana Nseni, leader du BDK, devant l'Assemblée nationale. Publication du rapport sur la révisitation des contrats et conventions minières, coup d'envoi des travaux sur les 5 chantiers à Kinshasa. Ce sont là les sujets que nous allons aborder avec nos confrères. Il s'agit de Louis-Dor Balekelaï, journaliste de Congo Web Télévision, Mbuyal Mangala, journaliste et analyste politique à la télévision nationale congolaise, et Nikèze Kibelbel du journal Les Coulisses qui paraît à Beni en Nord Kivu. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Le débat sur les événements malheureux du Bas-Congo est clos. La plénière de l'Assemblée nationale a poursuivi hier avec les interventions des députés. Ce débat faisait suite à la question orale du député Gilbert Kiakwama Tshiakiziki adressé au ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, sur la situation du Bas-Congo. Faute de temps, le ministre de l'Intérieur n'a pas pu répondre aux 222 questions des députés. Un délai de 24 heures lui a été ainsi accordé pour préparer sa réponse. Mais que peut-on retenir d'hier jeudi à l'Assemblée nationale, Jack Ngoy?
Venons-en d'abord au débat d'hier, celle des députés Crispin Kalala et Yves Kisombe, respectivement de l'ANP et de l'opposition, ont contrasté avec la position de leur famille politique dans l'affaire Bundoudia Congo. Premier à marquer cette tranchée, Crispin Kalala a surpris ses collègues de l'Alliance de la majorité présidentielle, car son intervention s'est rapprochée de celle de l'opposition. Mais tout en condamnant les revendications du BDK qu'il qualifie d'illégales, car s'écartant de la Constitution. Quant à Yves Kisombe, sa position a été de loin celle exprimée par Thomas Louak à son collègue du MLC. Tout au long de son intervention, Kisombe a fustigé le caractère belliqueux de Bundoudia Congo. Aussi, le député du MLC a-t-il félicité les éléments de la police nationale qui, selon lui, rendent à la nation des services loyaux. D'une manière générale, les députés ont abordé plusieurs questions liées aux événements du Bas-Congo avec en toile de fond l'implication des BDK et la réaction des éléments de la police dépêchés depuis la capitale pour rétablir l'ordre. L'attention réservée au chef spirituel de Bundoudia Congo, l'honorable Memwana Nseni, a été diversement alimentée. Pour les uns, il faut garder Memwana Nseni au sein de l'hémicycle comme député, au risque de ne plus le contrôler si son mandat lui était retiré. D'autre part, certains ont soutenu l'idée de voir l'État restaurer son autorité en mettant le député Memwana Nseni hors d'état de nuire, en le renvoyant devant la justice une fois son mandat levé. Le débat a été clos avec un résumé du président de l'Assemblée nationale. Après avoir relevé les points saillants des interventions des députés, Vital Kamerhe a convié le ministre d'État à répondre aux préoccupations des parlementaires. Ce dernier a sollicité un délai d'un jour pour préparer sa réplique. Rendez-vous est donc pris pour samedi 10h.
Pour rappel, c'est depuis le mercredi 26 mars dernier que le ministre d'État à l'Intérieur s'est présenté à l'Assemblée afin de répondre à la question orale de l'honorable député national Kiakwama Tshiakiziki relative à l'affaire Bundoudia Congo. À travers un réquisitoire, le ministre Denis Kaloumé accuse Memwana Nseni de plusieurs crimes, notamment recrutement des mineurs dans son mouvement, la constitution des tribunaux d'exception, des actes de xénophobie, atteinte à la sécurité de l'État, etc. Le premier policier du pays sollicite donc la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Memwana Nseni afin qu'il soit déféré devant les juridictions nationales et internationales. Le même jour, Memwana Nseni s'est défendu pour donner son point de vue. Je m'en vais directement vous poser la question, Louis-Dor Balekelaï. Quelle lecture faites-vous des différentes interventions des uns et des autres?
Bon, nous ne sommes pas surpris, c'est le jeu de basse facture de nos opérateurs politiques et qui ne parviennent pas à faire la part des choses quand il s'agit des questions existentielles du peuple congolais, qui se livre à un jeu de complaisance dans l'analyse et même la présentation des faits. Et la preuve est que pour la plupart d'intervenants que nous avons suivis à la tribune de l'Assemblée nationale, ils ont axé leur argumentation autour des conséquences de ce qui s'est passé dans le Bas-Congo. Or, il y a pratiquement plus de mois que nous parlons de ces sujets et nous avons démontré que si les dispositions avaient été prises au départ, on n'aurait pas connu la situation qu'on connaît aujourd'hui. On sait certes que le mouvement Bundu Congo, initialement, c'était une association culturelle. C'est ça d'ailleurs qui est contenu dans l'agrément qui venait de lui être retiré. Mais par la suite, on s'est réalisé que le mouvement était en train de s'émuer en une espèce de parti politique qui ne dit pas son nom. On l'a vu de par le comportement, par l'hymne national qui était déjà conçu par ce parti, l'installation des tribunaux d'exception et consorts. Alors moi, je pense qu'il était de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures conservatoires pour interdire le fonctionnement de ce mouvement sur l'ensemble du territoire national, mais la plupart des députés, en tout cas, ont prouvé à suffisance, comme l'avons toujours dit, que notre pays a le malheur de voir ses propres dirigeants, ses propres politiciens souffrir de la ménopause politique telle que on apprécie les choses selon qu'on est animé par des sentiments d'origine provinciale, ethnique ou tribalo clanique. On oublie en fait qu'on est dans un état des droits, on est dans une jeune démocratie qu'il faut consolider et qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui telle ou telle autre personne ou individu se constitue une milice autour de lui pour faire valoir des revendications. Aujourd'hui, si on dit qu'on ne peut pas lever l'immunité de Nemoine Dassemi pour qu'il soit ne plus qu'entendu, s'il est lavé en justice, eh bien, il peut recouvrer son immunité et continuer son travail de parlementaire plutôt que de jouer à un jeu qui ne dit pas son nom, comme on y assiste scandaleusement à l'Assemblée nationale.
Merci, Ludor Balekelaï. Je tiens à préciser d'abord que l'honorable Nemoine Dassemi a rejeté en bloc toutes ces accusations. Ce dernier a décortiqué le montage des preuves et la partialité du gouvernement quant à la présentation de son acte d'accusation. Il réclame la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. A noter que, selon les sources gouvernementales, il y a eu 27 morts au Bas-Congo, tandis que d'autres sources parlent de plus d'une centaine de morts. L'ONG, La Voix des Sans-Voix, parle de 200 morts. Fumbuyal Mangala, vous êtes journaliste et analyste politique à la télévision nationale congolaise. Est-ce que vous pensez que le retrait de l'agrément au mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo est une solution pour ramener la paix dans ce coin du pays?
Il y a deux manières de percevoir le problème. Ça veut dire qu'au premier niveau, le gouvernement vient enfin de comprendre qu'il y avait menace à la demeure. Mais justement, à un certain moment, nous avions déjà fustigé le fait que les services de renseignement dans notre pays ne jouent pas leur rôle. Parce que là où il y a les renseignements qui fonctionnent normalement et de manière efficace et efficiente, de tels faits n'arriveraient pas. Mais quant à dire que le retrait va aider à améliorer la situation, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que nous disons mouvement politico-religieux. Parce qu'il y a une dimension culturelle, une dimension psychologique. Donc le contexte psychologique ne tient pas compte d'un arrêté ou d'une ordonnance. Ça veut dire, sur le plan culturel, sur la manière de vivre, les Bundu Dia Congo vont continuer à l'être. Parce que c'est une pensée. La pensée, on ne la tue pas à travers un acte juridique.
Ludor Balekelaï, sans vous retirer la parole, a évoqué en fait qu'au début, Bundu Dia Congo avait reçu l'agrément parce que ce mouvement a été considéré comme un mouvement culturel. Mais il y a eu un certain revirement, le mouvement a basculé dans des activités politico. C'est pas une raison?
C'est une tricherie que l'on reconnaît. Donc, quelque part, le Bundu Dia Congo et les adeptes ont triché. Mais c'est pas le fait, le retrait en soi ne va pas diminuer les activités de Bundu Dia Congo. Ce sont des activités intellectuelles et philosophiques. Il y a un autre élément, c'est que depuis tout le temps, la misère a toujours constitué le lit de tous ces mouvements. Regardez comment la jeunesse congolaise, même des jeunes gens qui terminent des universités, sont en train d'être manipulés par des pasteurs qui naissent à gauche, à droite, des églises à Kinshasa. Il y en a combien? Si aujourd'hui nous vivons le fait de Bundu Dia Congo, mais le fait des autres églises, des autres communautés de foi qui sont en train de naître, pourrait nous amener à des mêmes faits. Dès lors qu'il y a une dimension psychologique et philosophique, donc c'est difficile de détruire cela. C'est difficile, mais il faut plutôt que l'État ait à résoudre le problème, tel que le Conseil des ministres réuni à Matadi a dû le penser, parce que face à la misère, les gens sont attirés par des discours mielleux. Donc ce qui se pose au niveau du Bakouba, termes des revendications sociales, ces revendications sociales sont fondées. Mais au-delà de ces revendications sociales, il y a l'attraction du politique, il y a l'attraction du religieux.
Nicolas Kibelbel, vous êtes du journal Les Coulisses qui paraît à Béni, au Nord Kivu. Votre lecture de ce qui se passe autour de la question Bundibya Congo.
Merci. Je pense que on demande au gouvernement une chose et son contraire. On demande au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État en rétablissant l'ordre public. Et puis après, on vante les frustrations d'un peuple en disant les revendications sociales sont fondées, tout ça. Mais les revendications sociales, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et en suivant un peu le spectacle de ces deux jours au palais du peuple, apparemment, certains députés sont en train d'envier l'insécurité qui se passe au Kivu. Parce que certains d'entre eux n'ont jamais vécu la guerre.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Soyez un peu plus explicite, parce que on ne vous comprend pas. C'est-à-dire que vous venez de dire que certains députés sont en train d'envier l'insécurité qui se passe au Nord Kivu. Expliquez-vous un tout petit peu.
Oui, parce qu'ils envient l'insécurité pour beaucoup de raisons. Entre autres, l'insécurité amène pratiquement le business. Ça, c'est de un. Et l'insécurité déstructure totalement l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui a une partie de son territoire occupé avec tous les problèmes, notamment les Kivu, et que des députés nationaux puissent, au lieu de soutenir l'État, puissent demander au fait que l'État se désengage et qu'on vive une seconde, disons, un second Nord Kivu. Donc c'est pourquoi je dis qu'ils ont envie l'insécurité au Nord Kivu. Parce qu'ils connaissaient la nature de l'insécurité, ils n'allaient pas dire tout ce qu'ils ont dit les deux jours ici. C'est pourquoi nous disons qu'ils ont envie l'insécurité au Kivu. Parce que le phénomène de l'insécurité, on sait comment l'insécurité entre, mais on ne sait pas comment on arrive à la paix. La paix, c'est un processus qui prend du temps. Et puis on nous dit toujours, vous ne pouvez pas vous développer tant qu'il y a encore l'insécurité. Comment on peut encourager l'insécurité alors que les premiers de l'insécurité, nous ne les avons pas encore résolus. Donc ça, c'est de deux. De trois, je pense aussi que lorsqu'on veut qu'on veut entrer dans un état de droit, on doit lutter contre l'impunité. Le retrait de l'immunité de spirituel de Bundibya Congo, je pense que c'est une bonne chose. Mais ça ne peut pas se limiter au retrait. Aussitôt qu'on a retiré cette immunité, il faut pratiquement le mettre à la disposition, le transférer à la justice. Parce que aussitôt qu'on va punir, même les adeptes vont, ils vont parler de persécution, mais avec le temps, ils vont se décourager. Mais tant qu'on lui donne la tribune, qu'on lui donne le temps de narguer l'État, je vous assure que son discours, il faut peut-être s'imaginer là où les adeptes suivaient ces interventions à la télé, je pense que c'était de aura de joie. Donc, il est d'abord spirituellement et moralement responsable de tout ce qui arrive, parce que lui, le chef spirituel de Bundibya Congo.
Merci, Nicolas Kibelbel, lui d'Orbalekelaï. Vous avez suivi les différentes interventions des députés. On a déploré la répression. On a parlé de l'usage disproportionné de la force, démesuré de la force.
Bon, je vais peut-être répondre à cette question en procédant par un procès de métaphore, en recourant justement à un philosophe du langage, Ludwig Wittgenstein, qui est un Allemand d'origine juive, qui disait dans son livre Tractatus Logico Philosophicus que le sens est dans l'usage. En fait, il voudrait dire que chaque chose s'explique dans le contexte. Qu'est-ce qui a dicté le comportement de la police? Je pense que je ne peux pas ici me permettre de faire l'apologie des valeurs négatives, c'est-à-dire dire que la police ayant tiré, elle mérite un coup de chapeau. Non, ça a condamné parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Mais il faut comprendre qu'il y a eu d'abord sur le plan psychologique tout un mythe autour de ce mouvement, je ne sais pas, magico, politico, problématico, je ne sais pas, religieux et consorts. Les gens croyaient que c'était... Les gens étaient convaincus et sont encore convaincus que c'était un mouvement mystique. Et les policiers, psychologiquement, étaient en position de faiblesse. Ils avaient peur parce que on a vu des policiers tués. Ça veut dire qu'en face d'eux, il y avait des gens qui étaient armés pour se défendre aussi. Moi, je n'encourage pas le fait que les policiers aient tiré, mais tout simplement parce que s'étant trouvé en présence des gens qui étaient aussi armés, qui avaient des flèches, qui étaient censés être invulnérables, qui avaient des armes à feu, ils ne pouvaient que, de l'une ou l'autre façon, faire preuve, appliquer le principe de comment on dit encore,
endroit.
Légitime défense pour se défendre, mais il y a eu des rapaces certes qui peuvent être punis, mais il faut aussi punir les causes, n'est-ce pas, de cet événement, notamment cette atteinte à la sûreté de l'État, doit aussi être puni autant que les dérapages qui ont été enregistrés. Donc, le comportement de la police a été dicté par la réaction des adeptes de ce mouvement.
Mbuyal Mangala, deux questions. La première, est-ce que les policiers qui ont été envoyés dans le Bas-Congo sont des enfants de cœur? Et deuxième chose, les revendications des Bundudia Congo, toutes les revendications, il faut les balayer du revers de la main?
Dans ce cas, je serais tenté de dire rapidement un mot. Les policiers, c'est des enfants de cœur. Moi, les policiers, je dis, c'est des Congolais qui ont été formés ou recrutés de la manière que nous savons. Mm-hmm. Et vous savez que de manière générale, et depuis l'ordre colonial, lorsqu'on recrute dans notre pays les militaires, les policiers, les militaires, on ne prend pas les meilleurs. Généralement, c'est des gens que l'on rencontre dans la rue, à la cité. C'est des gens qui ont échoué ailleurs, qui ont échoué quelque part. Ce sont ceux-là qui, généralement, sont attirés par le métier de policier, ils sont attirés par le métier. Donc l'ordre colonial nous a habitués à ces choses-là. À tel point que dans la famille, l'enfant le plus intelligent, on ne prédispose pas à affronter le métier d'arme. Donc ils sont issus de l'environnement congolais qui répond à un contexte. Alors ils ont fait ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il faut déplorer. Il faut renforcer leur capacité à mieux intervenir, à mieux assumer la fonction de l'État. Parce que ils sont face aux citoyens congolais et même des citoyens congolais qui travaillent pour l'émergence de l'État congolais. Donc il y a ce défi qui mérite d'être relevé. Mais maintenant, en respectant justement la citoyenneté dans les deux camps. Mais pour revenir, est-ce que toutes les revendications de Bundudia Congo sont fondées? Je dis non. Toutes les revendications ne sont pas fondées parce qu'il y a du vrai et du faux. Je commence par le faux. Des revendications de pouvoir restaurer le royaume Congo dans le contexte actuel, ça pose un réel problème. Parce que restaurer le royaume Congo, il y aura quelle limite au moment où nous reconnaissons, nous existons déjà comme république. Dès lors que la République démocratique du Congo existe et que Bundudia Congo, le monde d'enseigne, exerce les fonctions en tant que député national, il ne peut pas à la fois vouloir être député national, donc être roi. La royauté et la république, ça ne marche pas toujours de pair. Mais il y a des royaumes qui existent, qui ne tiennent pas l'État. Quand vous êtes avec le roi de Tchoukoué, non, au Katanga. Donc, il exerce ses fonctions en Zambie, il exerce ses fonctions en Angola, mais il ne tient pas l'existence de ces trois États. Donc, or, la tendance de Némanastem, c'est de gêner l'existence des États qui sont déjà reconnus.
Quelles sont les revendications objectives?
Les revendications objectives, c'est de la misère. Et notre ami Nikes Kiberbel l'a dit, la misère existe à travers toute la République. Et je dirais mieux, depuis 1960, la République démocratique du Congo, où des intellectuels congolais, ou des leaders politiques congolais, ne sont pas parvenus à proposer des réponses qui soient vraies pour permettre aux Congolais de se sentir à l'aise dans son propre pays.
Mais Mouna Sem, il propose une table ronde.
La table ronde n'est pas pour résoudre les questions sociales. Aujourd'hui, il y a des réponses du genre, les desserts faits, la plupart des programmes économiques proposés par le gouvernement depuis un certain temps n'ont pas porté des fruits. Alors, c'est aujourd'hui, par quelle manière, par quelle magie, allons-nous donner des belles réponses par rapport aux problèmes? Mais la table ronde, c'est pour résoudre les problèmes politiques, peut-être par rapport à ce que nous avons appelé le partage équitable, équilibré, mais les misères à travers la République parcourues aujourd'hui. On dirait même le Bas Congo a l'avantage d'avoir des infrastructures, on a la possibilité de traverser cette province en une journée ou en deux jours. Il y a des provinces que vous ne pouvez pas traverser en une journée, même pas en un mois, parce qu'il n'y a pas des infrastructures sociales qui répondent.
Nous allons clore ce chapitre avec vous, Nikes Kibelbel. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement aurait dû commencer à résoudre cette question en s'attaquant aux causes au lieu de s'attaquer aux conséquences? Et il y a aussi, vous-même vous avez relevé qu'il faudrait que l'impunité ne puisse plus continuer à élire domicile dans notre pays.
Oui, merci, mais vous savez que dans notre pays, l'impunité est une maladie, c'est une gangrène. voyez la configuration du gouvernement comme de l'Assemblée, du Parlement, je ne sais pas blesser les gens. Mais la plupart, aussi pas la plupart, je pense que beaucoup de gens doivent répondre des crimes qu'ils ont commis par, et sous le temps de Mobutu, et sous le temps de l'AFDL, même sous l'époque de la récente rébellion. Mais tant qu'il n'y a pas d'impunité, ces gens, ils continuent à agir. Nous les prenons pour le modèle, alors qu'il y a ceux qui ont vendu le pays. Ils sont là au Parlement, ils savent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, quand ils passent en plume, ils sont chantés par des musiciens, ils sont plus pour le modèle. Donc le problème de l'impunité est une gangrène pour la société congolaise. Mais je voudrais quand même dire qu'on est en train de mettre la charrue devant les bœufs. On demande au gouvernement de réagir avec une force proportionnelle. C'est-à-dire qu'on, jusqu'à on voit les conséquences, on dit mais pourquoi vous agissez alors que les causes, comme vous l'avez souligné, sont là. Mais les guerres qui ont secoué le pays, nous prenons la récente, la guerre du RCD de 2098. Mais les FSAC étaient prises à partie parce que la guerre a été annoncée directement, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont préparées à l'avance. Souvent, c'est préparé dans des cercles réduits. Merci. Et que les gens n'accèdent pas, il n'y a pas d'indiscrétion. Même ce mouvement, comme le leader l'a dit, il s'est présenté comme un mouvement culturel. Mais dans le culturel, il y a eu le militaire, il y a eu le politique. Mais le gouvernement a été pris à court, pris en partie plutôt, et la réaction, comme on dit, à toute action correspond à une réaction.
Merci.
Comme l'a dit aussi Mangal, on ne fait pas l'apologie de la violence. Et nous devons cesser de condamner la réaction de la police, alors qu'on le dit régulièrement que la RDC fait face à un plan où on veut nationaliser le pays.
Merci beaucoup, Nikez. Nous passons au deuxième sujet de notre tribune de la presse, publication du rapport sur la réhabilitation des contrats miniers. Il s'agit d'un rapport de 500 pages. Il concerne exactement 61 contrats, mais aussi des conventions minières. Ce rapport concerne entre autres la GKMIL, la MIBA, l'Okimo et d'autres entreprises minières. D'après le résultat de ces rapports, il n'y a presque pas de contrats dits normal ou catégorie A. Selon la commission, la majorité des contrats est classée catégorie B, c'est-à-dire à renégocier, mais la commission propose également la résiliation d'une vingtaine des contrats classés catégorie C. Notre confrère Georges Kamoudjova nous donne quelques cas spécifiques.
Dans le contrat avec Anvil Mining, la commission constate que l'État ne gagne absolument rien. La compagnie exploite le cuivre et l'argent près de Kilwa au Katanga, en particulier les gisements de Dikoulouchi et Kapulo dont la valeur minimale est estimée à 1,230,000,000 $. Au sud Kivu, le contrat avec Banro est pointé catégorie C, à résilier. Banro exploite l'or à Tamituga, là où il y avait son Minki, la société minière du Kivu. Banro a toujours été exempté d'impôts et de taxes et devrait donc payer près de 5,000,000 $. Toujours à résilier, mais cette fois-ci au Kasai, il s'agit de Sengamine. La commission estime que la société a exclu la MIBA à la signature du contrat alors qu'elle exploite ses gisements. Elle n'a entrepris aucune activité de recherche comme mentionné dans la convention. La sud-africaine First African Diamonds, qui détient 80% des parts dans Sengamine, devrait verser 198,000,000 $ à la MIBA. Autre contrat à résilier, c'est celui signé entre KHGM et Sodimico pour l'extraction et la vente du cuivre à Kimpe au Katanga. KHGM a donné à la commission des études de faisabilité en polonais, mais cela n'a pas empêché la commission de mentionner l'inexistence des travaux sur terrain. KHGM, en effet, devait construire une usine au Katanga.
Leader Balekelaï, après plusieurs mois, finalement, le gouvernement met à jour, publie le rapport sur la révisitation des contrats miniers. Comment analysez-vous cette publication? En fait, d'abord la durée, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que l'opinion sache quelles sont les résolutions prises au cours des travaux de révisitation de ces contrats. Et aujourd'hui, voilà, c'est mis à jour.
Bien, merci. Je crois que le gouvernement a fait quand même quelque chose de bien parce que à un certain moment, le même gouvernement a été soupçonné ou suspecté d'avoir signé des contrats où la population ne retrouverait pas son compte et qu'il y a eu des pressions, vous le savez, dans les médias et même au niveau de la société civile, ce qui a fait que finalement on a publié les résultats de ce processus de révisitation. Nous en avons parlé au cours de la tribune de la presse de la semaine passée, mais je crois que s'il faut dire quelque chose de nouveau par rapport à cette question, c'est le panel que le ministre de Mines venait de mettre sur pied et qui devra faire le suivi de la gestion minière en République démocratique du Congo. En dehors de problèmes qui sont liés à la politique d'intégration sociale qui a énormément manqué à toutes ces sociétés, qu'il s'agisse de Banoro, à Bukavu, d'où je reviens, les conditions de vie pour la population sont vraiment très dégradées. On ne voit rien de concret que cette société fait. À Saint-Lamine, en Bougouma, je l'avais dit la semaine passée, c'est la pauvreté radicale dans une ville, dans une province où l'on produit des diamants industriels et qui nous place à un rang considérable par rapport aux autres états du monde. La Soudimko Katanga, n'en parlons pas. Mais en ce qui concerne ce panel, je crois que c'est une bonne chose que le ministre ait songé à mettre sur pied ce panel qui va faire le suivi des résolutions de ce processus de révisitation des contrats miniers. Mais le danger que je crains, c'est que, vous savez, qu'on fait personne n'est vacciné contre la tentation de l'argent. On a mis sur pied ce panel, mais nous savons par le passé ce que les 32 ans, n'est-ce pas, du pouvoir passé a pu laisser comme stigmate dans la façon de voir les choses. Je crains que personne n'étant vacciné contre la tentation de l'argent, toutes ces personnes, tous ces hauts responsables qui seront, qui font partie de ce panel, les tombent dans le piège de la corruption. Là, il faut appeler les choses par leur nom, parce que justement, les sociétés qui sont suspendues ou qui verront leur contrat résilié doivent mettre, ça il faut le dire, il faut le révéler, mettront vraiment des moyens pour pouvoir contourner ces mesures du gouvernement. Et dans ces stratégies, généralement, il y a des pourboires, des pots de vin qui vont circuler à gauche, à droite. Encore faudra-t-il savoir si ceux qui sont censés faire les suivis de la gestion minière en République démocratique du Congo feront preuve de moralité pour ne pas justement compromettre les efforts déjà en cours.
Il y a une commission, la commission dirigée par le ministre
Zanga Mobutu, oui, c'est celui le président du panel.
Chargé du contrôle, du suivi même des résolutions.
Donc ma considération enveloppe tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui est vacciné contre la tentation de l'argent, mais mon souhait aurait été que la société civile soit associée dans la mise en place de ce panel, mais aussi qu'il y ait aussi des experts indépendants pour pouvoir faire le suivi, parce que le Congo, en tout cas, il y a tout et tout peut arriver, et il y a risque vraiment de compromettre ce travail et de qualité que le ministre des Mines venait d'abattre.
Merci Ludo. Mbuyal Mangal, votre réaction, 24 contrats à résilier clairement et 37 à renégocier.
Le rapport ne révèle pas en des termes clairs qui a fait quoi. Donc nous devons justement arriver à restaurer l'histoire. Lorsqu'on veut restaurer l'histoire, c'est qu'on doit créer la conscience historique. Je me dis, c'est un rapport qui arrive un peu tard, parce que c'est depuis pratiquement 2001 que nous avons eu le rapport du panel des Nations Unies sur l'exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Et on n'a pas réagi à cela. Et puis, il y a eu plus tard le fameux rapport Lutundula. La commission Lutundula a fait le même travail, mais au niveau de l'Assemblée nationale, on comprend que c'était une assemblée des belligérants. Ce rapport n'a jamais fait l'objet.
Il existe ce rapport jusqu'à ce jour.
Ah, certainement dénaturé, refait sous plusieurs facettes. Sous la pression de l'argent, comme l'a souligné.
Est-ce qu'on ne craint pas que les résolutions prises actuellement ne pourrissent dans les tiroirs?
Mais justement, l'inquiétude reste. Parce que la plupart des gens qui sont dénoncés par le rapport, c'est des acteurs politiques au pouvoir aujourd'hui. Donc, soit ils l'ont fait pendant qu'ils étaient dans la rébellion, mais ils se sont arrangés pour. C'est cet argent qui leur a permis certainement de gagner des élections. Aujourd'hui, ils sont soit députés, soit ministres. Alors, donc, c'est toute l'inquiétude. C'est que nous ne sommes pas sortis du tunnel. Nous sommes encore dedans. Nous sommes encore dans la fournaise. Il va falloir exploiter davantage de l'intelligence pour que la République ne soit pas prisonnière de la mafia d'un groupe à identifier ou d'un groupe qui existe.
Nikes Tibelbel, une réaction.
Ce que je peux dire, c'est appuyer tout ce que les confrères ont dit. Vous savez, j'ai en mémoire directement l'exemple de Kilomoto. À l'entrée de l'AFDEL, c'est tout un lobby de juristes, c'est-à-dire de cabinets judiciaires, congolais alors, qui se sont partagés, aidés par les multinationales, qui se sont partagés Kilomoto. C'est-à-dire, comme l'a dit Mbouyal, il va se poser un problème. il y a des cabinets judiciaires congolais qui vont défendre toutes ces entreprises et à qui on demande de revoir ou de revisiter, avec qui on veut revisiter les contrats. Donc, il y a la mafia, il y a les lobbies qui s'y entrent en jeu, et il sera difficile, comme l'a dit aussi Lidor, il est difficile, tant que les gens ne seront pas vaccinés contre la corruption, il est difficile que nous puissions sortir de l'aubaine. L'application posera problème.
Pourquoi les personnes qui ont signé ces contrats, pourquoi ils avaient signé ces types de contrats que la population ne bénéficie pas finalement?
Voilà d'abord comment ça se présente. Quand les multinationales arrivent, toute la délégation, le comité de négociation est logé au grand hôtel ou à la ligne. On ouvre un cahier, on dit si vous avez des problèmes en famille, vous pouvez retirer de l'argent. Ah, il se fait que le Congolais peut se retrouver, il a retiré 10 à 15 000 dollars. Et devant ce fait accompli, on lui demande de signer parce qu'il a déjà retiré l'argent d'autres. C'est-à-dire que nous négocions en position de faiblesse. Et vous prenez quelqu'un qui ne mange pas ou qui mange difficilement, vous le mettez au grand hôtel ou bien au même lit, et on lui donne tout, voiture et ainsi de suite. On ouvre un cahier, on dit vous signez, vous percevez l'argent. Donc c'est ce qui s'est passé avec Kilomoto à l'entrée de l'AFDEL. Les mandataires de Kilomoto se sont retrouvés avec des dettes qu'ils avaient perçues auprès d'Ashanti, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé la négociation. Et à la fin, on dit voilà, nous pouvons, c'est pratiquement un piège. Vous avez pris notre argent, vous devez nous faire passer. Donc, c'est ça d'abord. Et puis, il faut le dire, nous l'avons écrit dans notre livre qui est sorti avant, que nous sommes éternellement affamés. L'intellectuel congolais est affamé, éternellement affamé. Merci. Bon, et puis, en fait, il faut ajouter le problème de l'impunité. Il n'y a pas de justice, on ne poursuit personne.
Merci. Il y a Ludor Balekelaï qui veut ajouter, je ne sais pas, ou rebondir par rapport à ce que vous venez de dire.
Oui, justement, c'est pour compléter les confrères et aussi ajouter un élément nouveau dans la composition du panel qui est mis sur pied pour faire le suivi de ce travail. Moi, je propose en ce qui me concerne qu'il faut que ce panel soit piloté par un prélat catholique.
Je ne dis pas pourquoi un prélat catholique, Ludor Balekelaï, pour peut-être penser à faire appel à des experts
étrangers.
Pour que nous soyons partout, finalement.
Oui, il est expert étranger, oui, mais si c'est un laïc, il n'est pas lui aussi vacciné contre la tentation de la corruption. Mais un prélat catholique ou un pasteur protestant, un évêque protestant, je crois que ça peut encore être crédible et ça peut pousser quand même la population à faire confiance au travail qui sera fait. Mais tant qu'on donne au ministre du gouvernement de la République, alors que les mêmes contrats léonins qu'on a dénoncés ici ont été négociés par les ministres d'un gouvernement qui les a précédés, et même d'autres contrats aussi par ceux qui ont dirigé des rébellions par le passé, qui aujourd'hui ont vendu le pays pour 50 ans, comme le confrère l'a dit de l'autre côté du pays, et ce sont les mêmes gens-là qui vont se retrouver. Moi, je n'ai pas confiance, sincèrement.
Je vous en prie.
Ça m'engage, je n'ai pas confiance. Il faut confier la direction du panel à un prélat catholique ou à un évêque protestant qui est la société civile, et les membres du gouvernement aussi peuvent être là-bas comme participants.
Nikez Kidelbel, est-ce que vous avez en fait des preuves ou vous avez des sources?
Mais oui, beaucoup de nos ex-rebelles, ils sont impliqués jusqu'au cou. Et ça, les preuves, tout le monde, et tous ceux qui lisent le ministère régional et police depuis le début de la guerre du RCD ont vu des preuves que nous avons étalées dans le journal. Donc, nous en avons parce que le journal existe. Il y a des preuves, des gens qui ont vendu le pays pour 50 ans, ils sont au Parlement, ils parlent aujourd'hui avec les gens, Kinshasa les applaudit, mais ces gens n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Il y a des politiciens qui ont vendu le pays.
Merci.
Pour 50 ans, ils ont signé. Nous avons publié tout ça dans les journaux, et nous avons fait les journaux ont circulé. Donc, ça c'est un fait. Mais je voudrais revenir à ce que Lidor disait. Je donne l'exemple de l'Ouganda. L'Ouganda vit une certaine stabilité macroéconomique. Cela est dû, entre autres aussi, au fait que on a engagé des experts internationaux, donc des étrangers, dans la gestion même, dans certains ministères, dans certains postes, et dans des postes bancaires, postes financiers, il y a des experts internationaux qui ne sont pas nécessairement ougandais, et ceux-là, avec un peu de bonne moralité, essaient de mettre l'équilibre.
Merci.
Là aussi, c'est fondamental. Nous ne devons pas avoir honte là où nous avons échoué, et faire recours à des personnes un peu plus moralisantes que nous.
Merci.
Donc, voilà ce que je voulais ajouter.
Merci. Mouyal Mangala, journaliste et analyste politique à la télévision nationale congolaise. Est-ce que les entreprises dont les contrats seront résiliés et ne vont-elles pas attaquer le pays en justice? C'est pas un danger pour le pays?
Oui, c'est que ces négociations avaient été négocier, si je me répète, dans la transparence. Donc, dès le début, il n'y a pas eu la transparence entre ces entreprises et ceux qui représentaient les intérêts de l'État. Donc, dès le début, tous sont condamnables et l'État, et donc, je ne dirais pas l'État, les mandataires de l'État qui ont engagé l'État dans les affaires sales et les entreprises, savez-vous, que les multinationales avec la mondialisation qu'elles nous amènent, c'est sincèrement de la mafia. Les multinationales ne nous facilitent pas la tâche, surtout dans un pays pauvre comme le nôtre, les multinationales, on devait à la limite organiser des masses de protestation contre elles. Mais il faut identifier qui sont ces acteurs. Donc, elles n'ont pas négocié dans la transparence, mais je ne vois pas de quelle manière elles pourront attaquer l'État, à moins qu'elles utilisent la force de l'argent.
Leader Balekela, dans ces milieux-là, il y a l'argent qui parle.
Justement, l'argent parle, c'est pourquoi il faut qu'il y ait vraiment des gens de bonne moralité éprouvée et qui puissent justement privilégier l'intérêt supérieur de la nation au lieu de privilégier l'intérêt de leur propre poche.
Merci. Le dernier sujet de notre rendez-vous hebdomadaire de la presse. Le chef de l'État a donné le mardi 26 mars dernier à la place UPN le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération, ex 24 novembre, à partir de la place UPN jusqu'au rond-point Moulard pour un coût estimé à 13 millions de dollars financé par le fonds coétien et le gouvernement congolais. Ces travaux d'une durée de 15 mois vont être exécutés par les entreprises Greenline et Afritech. Ils vont consister à la rénovation des chaussées, à l'aménagement des caniveaux et des parkings pour taxis, ainsi que des travaux de lutte érosive. René Capita nous fait revivre les grands moments de cet événement.
Devant des centaines de personnes, des travailleurs d'Afritech et des autorités politiques et militaires, le chef de l'État a donné le coup d'envoi officiel des travaux en mettant en marche l'un des tracteurs stationnés sur le site. Avant, des discours de circonstance ont été prononcés tour à tour par le gouverneur de la ville, les PDG d'Afritech et les ministres des TPI. Pour le gouverneur de la ville, cet ouvrage vient accomplir les aspirations des Kinois à qui il a invité à éviter des attitudes négatives à l'égard des travaux à réaliser.
J'en appelle donc, chers concitoyens, à votre sens de civisme, envie de respecter et de protéger les fruits de tant d'efforts et de tant de patience. Nous devons éviter des comportements inciviques et des attitudes négatives allant du vol de matériaux au vandalisme sur les travaux réalisés.
Le gouverneur Kimbuta a rassuré par ailleurs que l'hôtel de ville prendra en charge l'éclairage public sur les tronçons à réhabiliter. Pour la population, il ne sert à rien de lancer des travaux si l'on peut les amener au bout comme ce fut le cas pour d'autres fois.
À chaque fois,
nous assistons à ce genre de cérémonie, mais il n'y a jamais eu de suivi. Si cette fois, le président s'est impliqué lui-même, vraiment, nous serons contents. Comme il commence la réhabilitation de la route de Kilembao, ils doivent penser aussi aux érosions. S'ils arrangent la route sans s'occuper des érosions, ils n'auront rien fait, parce que les érosions sont à quelques mètres de la route de Matadi.
Je signale que le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a affirmé l'engagement du gouvernement dans la concrétisation des travaux lancés dans le cadre du programme de reconstruction du pays. Pierre Lumbi a invité le membre du gouvernement à éviter toute démagogie. Aussi a-t-il annoncé le lancement progressif des travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa sur environ 350 km et d'autres chantiers, notamment à Bukavu et dans le Katanga, dans les prochains jours. Nikèze Kibelbel, je pense que la promesse du gouvernement sur le lancement des grands chantiers a commencé.
Oui, la promesse a commencé, mais je dois aussi donner un cas. Vous voyez la nationale numéro 4 qui part de Beni jusqu'à Kisangani. Elle a été conçue pour 18 mois, mais nous sommes à la troisième année, elle n'est toujours pas terminée. Les Chinois ont terminé leur partie qui va de Beni jusqu'à Nyanya, mais l'entreprise Kabet, je pense, qui appartiendra à des Libanais avec des Congolais associés, qui devait faire de Kisangani à Nyanya, n'a toujours pas terminé. Donc, en fait, le problème de la population, ce n'est pas de lancer, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Nous sommes, disons, confiants en croyant qu'effectivement, l'État, et c'est le début, le démarrage de ce chantier, on va aller jusqu'au bout.
Merci, Nikèze Kibelbel. Leader Balekela, chose promise, chose due. On peut dire cela ?
Oui, moi je suis optimiste. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'on a quand même longtemps attendu ces travaux. Mais j'ai été un peu écœuré aujourd'hui à 5h30 en suivant RFI, le président du Sénat, l'honorable Kingo Adondo, pour qui j'ai beaucoup de considération, c'est un grand homme politique, qui intervenait sur cette chaîne à une question lui posée par un confrère de RFI sur les 5 chantiers. Et apparemment, le président du Sénat ne semble pas percevoir dans le lancement officiel des travaux de réhabilitation de cette artère principale de la capitale le début de réalisation de 5 chantiers. Pour lui, il dit, et le ministre des Travaux publics a annoncé que c'est pour bientôt, mais rien n'est encore fait. Moi, j'étais quand même un peu scandalisé. Moi, je crois qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. On dit que le gouvernement ne fait rien, on dit que les 5 chantiers traînent. Quand on parle des Chinois, on émet toujours des critiques, mais il y a quand même quelque chose, même si ce n'est pas encore fini, quelque chose qui a été fait, c'est déjà un départ. Moi, je pense que ça aurait été quand même gentil de sa part de dire, voilà, les 5 chantiers, dans le cadre des accords avec les Chinois, n'ont pas encore démarré, mais au moins sur terrain, parce que le ministre qui l'a cité a fait ces déclarations-là en rapport avec l'inauguration des travaux de cette artère principale-là. Je pense qu'il aurait été quand même nécessaire de souligner aussi cela, que ça fait partie de ces efforts, parce que les 5 chantiers ne doivent pas exclusivement être financés par les Chinois. Il faut des apports internes, mais aussi externes. Cette avenue présente un intérêt social majeur dans la mesure où, en la réhabilitant jusqu'au bout, elle va réduire le phénomène embouteillage. Il y aura la libre circulation des personnes de leurs biens.
Merci, Ludor. Vous avez suivi Nikes Kibelbel qui a dit que lancer des travaux, c'est une bonne chose, mais les finir, en est une autre finalement. Comment vous réagissez-vous?
Non, mais nous sommes justement dans la maladie congolaise. On lance avec pompe une activité, mais on n'a pas toujours le temps de s'assurer du suivi et de l'évaluation du travail qu'on a lancé. On se souvient de travaux lancés à gauche, à droite. Ce qui fait la visibilité de l'État ou la raison d'être de l'État, c'est justement toutes ces choses, mais à condition que cela soit bien fait. Donc, il arrive qu'on accorde des marchés aux entreprises qui n'existent pas. Des entreprises sont en train de louer le matériel et au sud de tout le monde, il y en a à Kinshasa, mais à qui on a accordé le marché. C'est ça qui a tué le mobutisme, qui a tué la Deuxième République. Mais lorsqu'on se lance dans une nouvelle République et qu'on a lancé les 5 chantiers, ça veut dire que c'est une vision de l'espérance. Mais lorsqu'on lance une vision de l'espérance, il faut assurer le suivi. Le rapport ne suffit pas. Les reportages des médias ne suffisent pas. Il faut que de temps en temps, le responsable principal, parce qu'aujourd'hui, c'est les 5 chantiers, c'est l'œuvre du président de la République, du moins son programme. Il faut que lui soit le premier à s'assurer que quelque part, il n'y a pas de mensonges. Le rapport peut bien arriver, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours des contre-rapports. On le fait souvent dans les renseignements. Donc, il va pas faire rêver la population congolaise autour de ces 5 chantiers. Mais la communication, il faut le dire, est bien faible. Pour permettre aux jeunesses d'évaluer, de faire dire, vous aviez promis qu'à 10 ans, qu'à 12 mois, vous allez arrêter. Pourquoi vous n'arrêtez pas? Est-ce qu'il y a eu des tournements? Est-ce que l'État a fait ce qu'il devait faire? Est-ce que les entreprises à qui on a codé les marchés ont la capacité de faire réellement ce service? Merci. Sinon, on va connaître les aventures que celle Kinshasa connaît.
Nikes Kibelbel, parlez-nous un peu de l'état des routes aussi de votre coin, là-bas à Beni. La réhabilitation des routes des dessertes agricoles et autres ont commencé?
Bon, disons que, outre le système de péage route, il faut dire que la nationale numéro 4, qui est Beni Kisangani, le premier axe avec les Chinois, ensuite les informations sont bonnes, c'est entre ces deux jours qu'on doit remettre à l'écope, parce que les 400 quelques kilomètres sont déjà achevés, les gens peuvent faire bougne en aller-retour en voiture, c'est déjà une bonne chose, juste un peu vers Nyanya. Donc, de ce point de vue-là, il y a de l'espoir, bien que la population souhaite que cette route soit asphaltée de Beni Kisangani. Vous savez, le transport aérien coûte tellement cher avec les marchandises. Et l'optimisme, il est là parce que aussi les Chinois, contrairement à tout ce que les gens disent, les Chinois ont montré une expertise et un sérieux dans le travail. Vous avez le stade Kamani, le stade des martyrs, vous avez le palais du peuple, ont été conçus par les Chinois. Par contre, il faut éviter, comme l'a dit Mbouyal, de confier le marché à des entreprises qui n'ont même pas du matériel. Parce que la commande du matériel prend du temps. Donc les Chinois ont du matériel, ils ont l'expertise, ils ont la main d'œuvre, ils travaillent jour et nuit. Chez eux, ce n'est pas un modèle, mais chez eux, même le problème du salaire ne se pose pas. Nous, les Congolais, nous avons besoin que les gens que les routes, parce que les infrastructures routières sont très importantes. Donc notre pays doit s'ouvrir aussi à la Chine et aux autres pays du monde sans qu'on puisse lui coller une image des communistes, ainsi de suite.
Merci Nikèze Kibelbel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions nos invités. Je rappelle que nous avons reçu Ludor Balekelaï, journaliste de Congo Web Télévision, Mbuyal Mangala, journaliste et analyste politique à la Télévision Nationale Congo, et Nikèze Kibelbel du journal Les Coulisses qui paraît à Béni, au Nord Kivu. Merci à Anselme Sissoumbéré qui était à la réalisation, sans oublier Mimi Kindou qui était à la mise en onde. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.